Merci d'écouter Europe 1 en ce vendredi 24 mai. Et très bon réveil, il est 6h. Je dis 6h, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 24 mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Cette question, le docteur Péchier a-t-il voulu empoisonner une de ses collègues? C'était il y a 3 ans, l'anesthésiste de Besançon. Il est poursuivi pour 24 empoisonnements, dont 9 mortels. Dernière journée de campagne pour les européennes. Ce matin, zoom sur le parti de François Asselineau, dont les affiches inondent les ponts et les rues. Et puis 38e et dernière journée de Ligue 1 multiplex à suivre dès 20h sur Europe. Au programme, notamment Marseille-Montpellier, Amiens-Guingamp ou encore Caen-Bordeaux.
Europe 1.
Nouvelle révélation ce matin dans l'enquête sur le docteur Péchier, l'anesthésiste de Besançon, qui a été mis en examen pour l'empoisonnement de 24 patients, dont 9 sont morts. En 2016, une consœur de l'anesthésiste s'est fait opérer dans la clinique Saint-Vincent. La patiente qui a pris sa place au dernier moment est décédée. Pour les enquêteurs, c'est pourtant bien sa collègue qui était visée, Pierre de Cossette.
Lorsque l'affaire a éclaté, tout s'est éclairé. Pour Catherine Nambeau, elle-même anesthésiste, elle se souvient du mystérieux décès d'un de ses patients en 2008. Le docteur Péchier était là. Mais elle tremble surtout en repensant à ce jour où elle-même a été opérée. Le docteur Péchier devait faire l'anesthésie, les poches de produits étaient prêtes. Mais finalement, changement de planning, c'est une autre patiente qui prend sa place et qui succombe. Coïncidence, difficile à croire pour son avocat Alain Dreyfus-Schmidt.
Rétrospectivement, on réalise effectivement que manifestement, il avait voulu l'empoisonner ce jour-là. Ce qui correspond assez à la psychologie du docteur Péchier. Vous imaginez bien, s'il avait sauvé la vie d'une de ses collègues, il sortait à nouveau comme le héros, comme celui qui précisément arrive à ressusciter en quelque sorte les gens. Effectivement, il y en a certains qui ont été sauvés. Alors elle, est-ce qu'elle l'aurait été ou pas? On ne le saura jamais.
Quelques temps avant cette opération, les deux collègues s'étaient un peu brouillés. Des relations conflictuelles récurrentes entre le docteur Péchier et ses confrères. Pour le procureur, les incidents suspects à la clinique étaient plus fréquents durant ces périodes.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Le président du directoire du journal Le Monde, Louis Dreyfus, également convoqué par la DGSI mercredi prochain. La journaliste Ariane Chemin, elle aussi, était convoquée pour des articles sur l'affaire Benalla, notamment. Reporters sans frontières a réclamé des explications aux autorités françaises, rappelant que la France occupait la 32e place dans son classement mondial de la liberté de la presse en 2019.
Ce soir, minuit, fin de campagne des européennes.
Emmanuel Macron sera aujourd'hui face à un YouTuber, sans doute pour tenter de convaincre les jeunes d'aller voter dimanche. Le chef de l'État répondra en fin de journée aux questions d'Hugo Travers. Vous le connaissez, il est tous les jeudis chez Mathieu Béliard dans le Grand Journal du soir. Il sera donc en direct à 18h15 sur la chaîne YouTube Hugo Décrypte, un échange de 45 minutes. Zoom sur un candidat dont vous avez forcément croisé le visage sous les ponts, dans les rues, François Asselineau, dont la proposition phare est la sortie de la France de l'Union européenne. Un petit parti, mais avec de nombreux militants particulièrement mobilisés. Reportage à Paris d'Adrien Beck.
Bonsoir pour les élections européennes.
Tendre un tract sans dire le mot Frexit pour ne pas faire peur, Vincent en a pris l'habitude, militant UPR depuis 2 ans, pour lui presque un mi-temps.
Le tractage au minimum c'est entre 6 à 8 heures par semaine et plus le travail à la maison.
Je suis à 12-14 heures, 15 heures, facile.
Militant tout terrain, dévoué, certains achètent même la colle pour aller placarder les affiches au bord des routes de France. Système D obligatoire, dit Nicolas, dans un parti qui se vit comme censuré.
Le fait d'être boycotté par un certain nombre de médias, pour nous c'est une profonde injustice, et bien c'est quelque chose qui nous motive à utiliser les murs, ce que l'on peut pour afficher.
Moins affiché en revanche les moyens du parti, aucun élu mais quelques salariés, un QG parisien, t-shirt et mug se vendent bien, assure le président François Asselineau, 37 000 adhérents revendiqués, alors ne lui parlez pas de financement douteux.
Je rassure tout le monde, je ne reçois aucun argent caché, ni de Poutine, ni de personne, nous ne voulons dépendre que du peuple français.
Le peuple français qui, selon François Asselineau, aurait déjà donné plus d'1 million d'euros pour la campagne des européennes.
Adrien Beck, notez que Pascal Canfin, numéro 2 de la liste Renaissance, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe 1.
Un chiffre ce matin, Céline, plus d'1 300 000 personnes vivent dans un logement insalubre en France.
Oui, un phénomène qui ne touche pas seulement les villes. La moitié des logements se trouvent dans des zones rurales. La plupart du temps, ce sont souvent des personnes âgées qui n'ont pas les moyens d'entretenir leur maison. Maud Descamps s'est rendue dans l'Oise, aux côtés de la Fondation Abbé Pierre, qui va à la rencontre de ses habitants pour leur proposer de rénover leur logement.
Je vais vous montrer la maison.
C'est la première fois depuis que le chantier a commencé il y a un mois que Nadine et Jean-Pierre viennent jeter un œil à leur maison métamorphosée.
On nous a mis des radiateurs, on nous a changé les fenêtres, on nous a mis une douche à l'italienne.
Ça aurait pu durer comme ça, c'était trop ça là. Maintenant, c'est quand même mieux. On est quand même mieux dans notre peau, quoi.
Retrouver un toit sain et un peu de dignité, cet ancien ferrailleur et son épouse manutentionnaire ont vécu 40 ans dans cette petite maison de 80 mètres carrés avec leurs 4 enfants. Des conditions de vie difficilement imaginables, se souvient Jacqueline, bénévole pour Ecohabitat qui gère le chantier.
C'était l'horreur. Ces gens-là n'avaient aucune place, donc ils ne pouvaient pas faire attention à la poussière, à tout ça. Et monsieur et madame avaient beaucoup de rats, ce qui pouvait donc amener beaucoup, beaucoup de choses insalubres, quoi. Vraiment, pour eux, c'est un changement radical.
Coût total des travaux, 54 000 euros, financés par les associations et les collectivités. Jamais le couple n'aurait pu débourser une telle somme, mais Jean-Pierre et Nadine vont participer aux frais, 85 euros par mois. C'est important, disent-ils, pour nous sentir vraiment chez nous. Berneuil-sur-Aisne, Maud Descamps, Europe 1.
Auchan va vendre la quasi-totalité de ses magasins en Italie, ainsi que au Vietnam. Une décision nécessaire en raison de la situation économique très difficile après une perte d'un milliard d'euros.
Je ne sais pas ce que vous faites ce soir, Céline, mais moi ce soir, le vendredi 24 mai, c'est toujours pareil, c'est la fête des voisins.
Et oui, c'est la 20e édition, plus de 9 millions de participants. Et c'est dans une rue de Paris en 1999 qu'est née cette initiative. Victor Delande est retourné voir ses habitants hier soir qui ont déjà fêté la fête des voisins.
Une grande table sur la chaussée, des chips, des quiches, du saucisson. 20 ans après, la recette de la fête des voisins n'a pas changé. Et pour celui qui en a eu l'idée, le premier, Athanase Périfan, la même simplicité.
Vous venez à la fête des voisins ? Super, Athanase, votre voisin d'en face.
On
se connaissait pas ?
Non, du tout.
Pour passer une bonne fête des voisins, il faut déjà écouter les conseils du spécialiste.
On est tous coincés dans le paraître, qu'est-ce qu'on va dire, machin. Et faut arrêter de se la jouer, faut aller vers l'autre, c'est ça qui est essentiel.
La concierge de l'immeuble a reçu le message, cette convivialité, elle adore.
C'est formidable, les voisins s'entendent très bien.
Il y a aussi les pique-assiettes, Jean-Marc, du 3e, les a bien repérés.
Il y a les requins, les gens qui viennent, ils sont prêts à tout partager, mais ils ont rien.
Une fête des voisins, c'est également un très bon plan drague.
Il y a eu même un petit couple qui s'est formé par la fête des voisins.
Sans oublier le plus important.
Ça tombe à l'heure parfaite de l'apéro.
Ah, c'est Varrock que j'ai entendu rigoler. Non
bah oui, ils ont dit que c'était un bon plan drague.
Pas du tout.
Merci, c'était...
Et à l'apéro.
Et en plus, c'est-à-dire que toutes les valeurs des vins sont réunies
dans cette
fête.
Si je vous le dis, hein, voilà.
Pas du tout. C'était le journal de Céline Kallmann, journaliste infaillible, femme éblouissante, sans tabou, qui m'a fait découvrir vraiment beaucoup de choses, notamment... la domination. Je ne connaissais pas, dire, ça me faisait un peu peur. Puis le jour où elle a sorti sa cravache et qu'elle m'a menotté au radiateur, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Faut dire qu'elle est assez directive, hein. Ça s'entend d'ailleurs à l'antenne.
J'ai vu, Céline, que vous aviez un gobelet en plastique, c'est mal. Je le jette de suite. Buvez votre café d'abord.
Ah. À lundi, maîtresse.
Europe 1. 5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Le fact-checking par l'histoire. Aujourd'hui, à J-2 de l'événement. Et alors que dans toutes les écoles maternelles de France, de ravissants colliers de nouilles entrent en phase finale de production, Fabrice Dalméda nous racontera d'où vient la fête des mères.
Bon réveil à tous, il est 6h08. Il est 6h10, Mathieu Noël.
Et tout de suite, on fait un point sur la météo de ce vendredi avec la pluie qui revient et avec elle les orages.
Oui, des orages marqués cet après-midi dans le sud-ouest, hein, l'Auvergne, et puis en remontant également vers la région centre, voire l'Île-de-France en fin de journée. Un ciel qui ce matin est bien couvert et déjà pluvieux des Landes à la région Midi-Pyrénées. Un ciel pluvieux qui va gagner aussi le Languedoc-Roussillon, le flanc est, avec là aussi quelques coups de tonnerre peut-être dans l'après-midi sur les reliefs. Alors ça se complique comme prévu, mais ça sera encore calme ce matin, un petit peu partout, sauf dans le sud-ouest, avec des nuages mais encore de larges éclaircies. Cet après-midi en revanche, le soleil va résister surtout de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Pour les autres, il y aura encore beaucoup de nuages.
Merci Céline Varrock.
À 6h45, je vais vous parler de la nouvelle série française qui s'appelle Double Jeu, qui est diffusée sur France 2 ce soir. Et à cette occasion, on vous a demandé sur Twitter quelles sont les séries françaises que vous aimez. 10% revient beaucoup dans vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1, comme Jérémy qui a aussi aimé Marseille de Netflix. Je partage moins cet avis-là.
Oui,
et il a aussi adoré Clara Chez l'heure, et ça tombe très bien parce que je vais vous en parler à 6h45. Et puis Viviane...
Et qu'est-ce qu'on pense de Vernon Subutex ? Est-ce qu'on a des retours là-dessus ?
Moi j'ai adoré.
Mais vous avez adoré ? Ouais, ah oui, adoré sans bémol.
Vous si, avez adoré avec des bémols, mais j'ai adoré. Oui. Non, avec des bémols, mais j'ai adoré. Et Viviane nous dit qu'elle aime beaucoup Candice Renoir, Cain, Sharif, vous savez, c'est aussi les séries policières de France 2. Et sa série préférée, ça reste quand même Debout les copains. Alors, merci beaucoup.
Oh. Voilà. Ça c'est bon. Merci d'avoir écrit vous-même ce message, Eva.
Non, même pas. C'est même pas vrai.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le journaliste qui nous rejoint à présent est beaucoup plus qu'un simple journaliste, un véritable entertainer. Un esprit vif et farceur, toujours en quête d'idées cocasses pour vous divertir, d'où son surnom, GG la déconne.
Ah oui, t'as vu, à la fin, j'ai une petite brève sur James Bond.
Pour la déconne, t'as qu'à mettre la musique de Mission Impossible.
Tout pour la déconne. Voici Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports.
Ils l'ont fait en
plus. Oui, mais on l'a repéré aussi.
Oui, on l'a repéré, on vous a grillé avant. À la une de ce Journal des Sports, la tête au dernier carré.
On n'a pas manqué de remarquer hier soir, à l'issue du tirage au sort des matchs du premier tour de Roland-Garros qui démarre dimanche, que l'une des deux demi-finales pourrait bien voir s'affronter Roger Federer et Rafael Nadal, le Suisse de retour après trois éditions d'absence. L'Espagnol en lice pour un 12e Roland-Garros. Une 12e victoire, ce serait vertigineux. L'ancien bleu Cédric Pioline est consultant européen pour la quinzaine. Il l'a bien noté hier au tirage au sort. Nadal, qui était présent, n'était pas stressé.
Quand il arrive ici, on l'a vu détendu parce qu'il a un tel historique positif ici que forcément il a toutes ces bonnes vibrations qui remontent. C'est quand même très loin de se projeter dans une demi-finale potentielle contre Federer. Même si Nadal lui a été assez épargné, je dirais, en termes de tête de série très forte. Federer, par contre, il faudra quand même qu'il se ferait un chemin jusque là-bas.
Nadal affrontera deux qualifiés pour ses deux premiers tours. Federer attaquera contre l'Italien Sonego, 73e mondial. Djokovic sera face au prometteur polonais Urkaz. Et côté français, on notera le premier tour abordable pour Gaël Monfils face à Taro Daniel, japonais 107e mondial. Richard Gasquet attaquera par l'Allemand Misha Zverev, 103e mondial.
Richard Gasquet qui sera d'ailleurs ce matin l'invité de Nico Salegas à 7h45.
Une saison décidément chaotique au PSG, des résultats bien en deçà des espérances. Les doutes sur Kylian Mbappé, va-t-il rester? Voilà maintenant que le président Nasser Al-Khelaifi est inquiété par la justice mise en examen dans l'attribution jugée suspecte des mondiaux 2019 d'athlétisme au Qatar. Ça tangue au PSG et l'entraîneur Thomas Tuchel donne le sentiment de ne plus maîtriser grand-chose. Écoutez la réponse de l'Allemand quand on lui demande si ces deux stars, Neymar et Mbappé, vont rester la saison prochaine. Il sait pas trop.
Nous sommes dans le foot et toutes les choses peuvent venir. Je suis attentif, nous ne sommes pas naïfs et je ne suis pas naïf.
Le PSG qui joue ce soir à Reims pour la dernière journée de Ligue 1, ultime acte dont l'enjeu est le maintien. Ça va se jouer entre Amiens, Dijon, Caen et dans une moindre mesure Monaco. À vivre en multiplex sur Europe 1 dès 20h. Par ailleurs, plus de 3000 supporters de Lens sont attendus ce soir au Stade de l'Aube à 3. 3 Lens, barrage d'accession de la Ligue 2 vers la Ligue 1, coup d'envoi 18h. Et puis les obsèques de Niki Lauda célébrées mercredi prochain à Vienne, obsèques publiques pour l'ancien immense pilote Formule 1 décédé cette semaine. Le public pourra se recueillir devant son cercueil ouvert à la cathédrale.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Une page de plus dans l'incroyable success story de Tony Parker, le meilleur basketteur français de l'histoire, quasi retraité des parquets, est aujourd'hui un businessman. Il est notamment propriétaire du club de Villeurbanne. L'équipe masculine est en course pour le titre de champion de France. Un Graal national que la section féminine vient de conquérir hier pour la première fois. Victoire en finale contre l'Atte Montpellier, 75-61. Réussite express. Tony Parker, il a racheté le club il y a 2 ans seulement.
Merci, c'était le Journal des Sports de Jérôme Lacroix. Le dernier de la matinée, alors Céline, qu'est-ce qu'on dit à Gégé ?
Salut petit cul, tu me rapporteras un café.
Je pensais plutôt bon week-end ou un truc comme ça, mais visiblement vous le connaissez mieux que moi. Bon, on passe à la rubrique histoire. Céline, je préfère pas vous demander ce que vous diriez à Fabrice Dalméda, on enchaîne directement.
Je vous ai compris !
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Dimanche aura lieu la fête des mères, une fête adoptée officiellement par la loi du 24 mai 1950, mais son invention est souvent attribuée au régime de Vichy. Comment vous décryptez les choses, vous l'historien ?
Alors pour moi, tout commence bien avant Vichy. En 1904, dans un village à 40 km de Lyon, Arthas. Arthas qui se revendique encore aujourd'hui le berceau de la fête des mères. C'est là que Prosper Roche, un instituteur nataliste, a l'idée de créer un prix pour des mères méritantes et de le faire une fête le jour de la remise, la fête des mères. Le 10 juin 1906, pour la première fois, deux mamans de 9 enfants reçoivent environ 100 € et sont fêtés dans les rues du village pavoisé. Roche fait la promotion de son idée. Il l'envoie même à l'Académie des sciences morales et politiques. Si bien que la ville de Lyon adopte le principe en 1918, puis en 1920, l'expérience d'Arthas influence le lancement de la Journée nationale des mères, reconnue par le gouvernement en 1926. Finalement, en 1941, le maréchal Pétain, enfin un pilier de sa politique familiale.
Et aucune origine étrangère à cette fête alors ?
Un peu quand même. Allez, les anciens Grecs et Romains célébraient chaque année les divinités maternelles, Cybèle ou Rhéa. Au XVIIe siècle, en Angleterre, on célèbre une sorte de fête des mères, sans oublier les Américains. En 1908, une jeune protestante décide de tenir une journée en mémoire de sa mère décédée et demande une journée nationale des mères. Elle est entendue en 1914 par le président Wilson, qui crée par décret le Mother's Day. Mais vous remarquerez qu'en France, le mouvement était déjà lancé.
Et l'idée des cadeaux, ça vient d'où ?
Ils sont venus assez vite après l'adoption de la loi du 24 mai 1950, qui institue donc notre fête des mères, le dernier dimanche de mai. Ces petits présents sont les décorations que chaque enfant pose sur la poitrine de sa maman. Preuve d'amour et de mérite, alors bonne fête à toutes les mères dimanche.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve donc lundi, peu avant 6h15.
Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Les jeunes sont de nouveau appelés à descendre dans la rue aujourd'hui pour une grève mondiale pour le climat. Des appels à la grève répertoriés dans plus de 1700 villes à travers 90 pays, une centaine de villes en France, Paris, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, Lyon, encore Toulouse. Européenne, la campagne électorale s'achève en France. Hier soir, les 11 têtes de liste réunies sur BFM TV ont tenté de se distinguer les unes des autres en multipliant les invectives. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Irlande et de la République tchèque de voter. Enfin, la première ministre britannique Theresa May pourrait annoncer sa démission aujourd'hui. Hier, elle a dû se résoudre à repousser le vote de son projet de loi de la dernière chance sur le Brexit.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce vendredi 24 mai. L'actualité, c'est aussi le tournoi de tennis de Roland-Garros qui débute ce week-end. Un tournoi prestigieux créé en 1891 et qui se tient depuis 1925, Porte d'Auteuil à Paris. Un site qui avait grand besoin d'être rénové. C'est chose faite cette année. Bonjour Gilles Jourdan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes le directeur de ce projet de modernisation de Roland-Garros. Alors déjà, entre nous, je suis passé Porte d'Auteuil l'autre jour. Je me baladais, disons pour raison personnelle, du côté du Bois de Boulogne. Et j'ai vu quelques bâches encore des ouvriers. C'est fini, in extremis votre affaire là.
Écoutez, c'est un peu la magie du lieu. Hein. C'est pas chaque année pareil, parce qu'on fait pas ça chaque année quand même. Hein. Mais c'est la magie du lieu. Il y a toujours un tas de choses au dernier moment qui s'installent. Et puis finalement, ça finit par être, on sait pas comment. Enfin, on sait un peu comment, on l'organise quand même. Bon, mais là, on en avait rajouté une petite couche quand même. Avec la destruction et la reconstruction du cours central, donc
alors le cours central du stade. J'ai lu, vous allez me dire si c'est vrai, qu'il a été détruit le soir même de la finale l'année dernière à 90%. Vous êtes reparti quasiment d'une page blanche.
Oui, alors pas le soir même, mais une semaine après hein, quand même.
Hein. Ah oui, quand même.
Quand même une semaine après, pour qu'on enlève les 2-3 trucs qu'on voulait récupérer. Et puis effectivement, à 80%, en gros, on a gardé des sous-sols techniques existants, et puis un petit bout de tribune par-ci par-là, mais qui a été remodelé, reprofilé, donc voilà, donc tout le reste est tombé par terre.
Et donc le design même du cours a changé, on ne va plus le reconnaître de l'extérieur ?
Écoutez, ce qu'il faut, c'est effectivement, il va changer parce qu'il est plus grand, plus haut, plus large, et les angles sont plus ouverts comme c'était par le passé, il y a des angles arrondis un peu comme dans les nouveaux stades, donc ça c'est nouveau, mais bon, on essaye quand même de garder notre identité. Hein. Faut que les gens disent waouh, c'est vachement bien, ça a changé, mais c'est Roland Garros quoi.
Vous avez su garder ça, de Roland Garros.
Bon, je sais pas si on a su le garder, on va le voir. Hein. On va le voir la semaine prochaine. En fait, déjà les joueurs pour l'instant trouvent le truc plutôt bien, donc ça c'est pas mal. On n'a pas de critiques, donc c'est bien. Hein, parce qu'en général, ils donnent pas beaucoup de compliments ces gens-là. Mais le cours lui est parfait. Mais c'est la seule chose qui est restée. Hein. La surface de jeu n'a jamais été touchée depuis 1928. Hein.
Ah oui, ça c'est
là, bon, la terre battue, on l'a changée. Mais le sous-sol, il y a la sueur et les larmes de tous les joueurs qui ont joué sur le cours depuis 1928.
L'âme reste très donc là. Eva Rock, vous avez une question justement.
Il n'y a pas que le cours central dans tous les travaux que vous avez réalisés. Il y a quoi, 8 nouveaux cours, c'est ça ?
Bah écoutez, il y a tout le stade sauf le cours Suzanne Lenglen. Voilà, en gros, qui va être rénové. Donc on commence par l'est avec le nouveau cours Simone Mathieu dans le jardin botanique, qui est une petite merveille de cours. Hein. Il y a un petit cours de 5000 places entouré de serres.
Celui qui est semi-enterré, c'est ça ?
Voilà, celui qui est semi-enterré. Donc celui-là, c'est la première fois qu'il va être joué cette année. Hein. Et puis à l'extrême ouest, à l'autre côté, là, vous avez toute la zone, l'autre côté du Suzanne Lenglen, nouvelle zone avec les nouveaux cours annexes, le 14, etc. Et donc on a agrandi des allées, on a supprimé des choses qui ne servaient pas pour le tournoi, on les a mis ailleurs, on a agrandi les allées, on a trouvé de l'espace, on va avoir des espaces verts, on va planter 150 arbres de plus, c'est ouvert sur l'extérieur et très vert. Et puis le deuxième truc, c'est que autant on garde l'intimité des joueurs dans les vestiaires, les warm-up, les studios, etc., autant sur le cours, maintenant, bah, ils vont arrêter d'être enfermés entre quatre bâches, on peut à peine voir ce qui se passe. Là, maintenant, quand on est déambule dans les allées, on voit tous les cours, dans la zone là-bas, à l'autre bout. Et donc, on peut regarder quatre matchs en même temps. Quoi. Voilà. Alors, c'est assez sympa, ça.
Est-ce que, justement, le résultat, on ne va pas dire final, puisque les travaux continuent, il va y avoir notamment un toit hein, sur le central en 2020.
Oui.
Mais est-ce que, déjà, à ce stade, c'est conforme à ce que vous espériez ? Parce que souvent, quand on commence des travaux, je vois avec ma cuisine, par exemple, le résultat n'est pas celui que j'avais imaginé. Est-ce que vous avez fait tout ce que vous vouliez faire ?
Eh bien, écoutez, c'est le même problème que dans votre cuisine. C'est pas compliqué, hein ?
À une autre échelle.
C'est-à-dire que Voilà, alors on
mais moi, j'ai pas eu plainte des riverains. Là, apparemment, il y a eu des plaintes des riverains. Enfin, vous avez eu pas mal de soucis non, sur ce chantier,
non ? Les riverains, bon, on a fait un peu de bruit quelques nuits pendant le tournoi, pendant les travaux, parce qu'on travaillait en 3-8. Bon, d'accord.
Ah oui.
Et puis, mais on a les mêmes problèmes que dans votre cuisine. On a des tuyaux bouchés, des canalisations qui fuient, le carrelage qui tient pas bien. C'est pareil. Hein,
c'est pareil
ici. Donc, on bricole pour rafistoler tout ça, mais des travaux aussi gigantesques que ça, il faut avoir.
Justement, ça a coûté combien ? Vous connaissez le montant ? Est-ce que vous suivez ça ou est-ce que vous. Vous fermez les yeux maintenant. Pour ne plus
non,
voir.
Non, on suit ça au centime près.
Non.
Nous, vous savez, c'est financé entièrement par la fédération. Hein, il n'y a pas de. Voilà, les collectivités financent zéro sur ce plan.
Nos impôts ne vont pas dans Roland-Garros.
Vos impôts ne vont pas à Roland-Garros, voilà. Donc c'est peut-être le prix du billet que vous payez, c'est tout. Oui. Mais vos impôts.
Est-ce que le prix des billets va monter, justement ?
Non, pas particulièrement à cause de ça. Non, dans l'avenir, le business.
Il va monter quand même.
Non, on va en 21, on va faire des sessions de soirée. On va faire une dizaine de sessions de soirée. Donc c'est ça qui va faire un petit peu la différence, qui n'existait pas avant. Mais le projet, c'est 380 millions d'euros, tout compris, de l'Est à l'Ouest, en passant par le Central.
Un petit mot, parce que ça a son importance, ce fameux toit ouvrant qui va arriver. Ça, c'était devenu indispensable, parce que les conditions météo sont parfois un peu décevantes sur Roland-Garros. Il y a eu beaucoup de matchs qui ont été ces dernières années arrêtés par la pluie. Ça, c'était vraiment l'enjeu principal, c'est ce toit qui va arriver en 2020.
Le toit, c'était une nécessité, effectivement... c'est pas très sympa quand il pleut, que les gens attendent sous la pluie, que ça se passe. Et que,
oui, c'est aussi pour le public, télé, pas seulement pour les joueurs.
Voilà, ouais. Que le public, et puis que la télé passe un dessin animé à la place de la finale. Quoi. Ça commence à être compliqué à faire comprendre.
Je crois que Eva Rock a une dernière question pour vous.
Gilles Jourdan, est-ce que vous voulez bien vous mouiller ? Qui va gagner le tournoi de Roland-Garros cette année ?
Ouais, alors là, je vous laisse.
Qui va mouiller ? Je veux pas me mouiller beaucoup. Hein.
Ah, allez, dites.
Bah, pourtant, il n'y a pas le toit.
Il n'y a pas le toit pour l'instant.
Oui, je vais pas mouiller beaucoup parce qu'il va faire beau.
Oui.
Écoutez, il y en a un qui arrête pas de gagner ce tournoi. Je pourquoi, à part sauf s'il se casse la jambe en descendant les escaliers du vestiaire, pourquoi il gagnerait pas encore cette année ?
Vous seriez responsable s'il se casse la jambe, j'imagine que vous parlez de Nadal, c'est ça ?
Oui, exactement.
Et, bon. Et comme les escaliers ont été bien pensés par vous, ils ne risquent pas de se faire mal.
En principe, et puis qu'il y a des gens qui sont devant et derrière pour qu'ils ne se prennent pas les pieds dans le truc, voilà, on fait attention quand même.
Merci.
Et puis je mettrai une petite pièce sur le grec, Tsitsipas.
Ah oui.
Et chez les femmes, je mets Alep. Voilà.
Ah, comme ça, au moins, vous n'avez pas fait le langue de bois, vous êtes carrément mouillé. C'est très bien pour la personne qui construit le toit du rôle de Roland-Garros en 2020. Merci à vous, Gilles Jourdan, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes le directeur de ce grand projet de modernisation de Roland-Garros. Je vous souhaite un bon tournoi.
Merci beaucoup. Au revoir.
Europe 1. Il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal du demi-dieu de l'info, David Doucan, puis la météo avec des orages qui arrivent par le sud-ouest.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Et on fait tout de suite un point sur la météo de ce vendredi avec l'arrivée de la pluie par le sud-ouest,
oui,
ma chère Céline.
Des averses déjà soutenues ce matin, des Landes jusqu'à la région Midi-Pyrénées, de la neige même sur le relief au-dessus de 2400 mètres. Sur le reste du pays, on aura encore ce matin pas mal de soleil, mais aussi des nuages, avec de bonnes brumes. Hein. Attention, entre la région PACA et la Corse, mais aussi sur la pointe bretonne, sur les côtes principalement. Ces pluies vont progressivement gagner la Dordogne, le Limousin, et puis se décaler vers le Languedoc-Roussillon. On aura des averses orageuses bien marquées cet après-midi entre la Nouvelle-Aquitaine, la région centre et l'Auvergne. Des orages qui pourraient déborder sur la région parisienne en fin d'après-midi. Puis ça va se couvrir aussi sur le flanc est. Finalement, seuls la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais vont conserver un temps plus calme avec encore beaucoup de soleil cet après-midi.
Un mot des températures qui baissent forcément sous la pluie.
Ben oui, on va perdre jusqu'à 11 degrés par rapport à hier dans le sud-ouest. Cet après-midi, 17 degrés à Toulouse contre 26 hier. Il en fera même 15 à Tarbes. Ailleurs, on va conserver des températures très douces, hein, puisque la moyenne ira de 20 à 25 degrés. Il en fera encore 23 à Paris comme hier, jusqu'à 26 à Montélimar. On en profite car ça va baisser un petit peu partout les prochains jours. La moyenne va rester douce quand même, je vous rassure, hein, 19 à 22 degrés. Et puis ce matin, on est dans des valeurs de saison, 10 à 16 degrés. Un petit peu moins à Caen ou à Brest, hein, 8 et 9 degrés. Un petit peu plus du côté de Nice et Perpignan, 17 et 21 degrés.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. Et une autre spécificité, une interactivité avec l'auditeur extrêmement poussée. Grâce aux explications d'Eva Rock, responsable du lien auditeur, qui chaque matin réexplique avec beaucoup de pédagogie et de bon sens le fonctionnement de cette interactivité.
Vous nous écrivez et on vous rappelle tout de suite. On peut pas vous rappeler si vous nous écrivez, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Bon, oui. Bon, grosso modo, je crois qu'on a compris. Bref, ce sera certainement plus clair avec les trois fantastiques. Politique, économie, médias, chaque matin, l'actu décortiquée par des experts qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui n'hésitent pas à prendre parti au programme aujourd'hui, notamment le couperet des élections européennes, moment crucial du quinquennat, ça passe ou ça casse pour Emmanuel Macron.
Bienvenue sur Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Et voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Dernière journée de campagne avant la trêve légale. Enjeu majeur pour la majorité, ne pas arriver derrière le Rassemblement National. Le Premier ministre a multiplié les meetings. Édouard Philippe joue-t-il sa place en cas de défaite ? Reportage dès le début de ce journal. Connaissez-vous le World Impact Summit ? C'est à Bordeaux aujourd'hui et demain. Un sommet pour valoriser les initiatives concrètes face aux défis climatiques. Nous sommes à Europe 1 partenaires de l'événement. Et puis ce soir, dernière journée de la Ligue 1 de football, encore beaucoup de suspense en bas de tableau. Soirée spéciale multiplex à suivre sur notre antenne et tous les enjeux dans un instant.
Europe 1.
Le président de la République a posé lui-même les données de l'équation. Si la liste Rassemblement National arrive en tête, c'est un risque existentiel de dislocation de l'Europe, a-t-il dit. Ce serait aussi bien sûr un problème politique pour lui et pour son gouvernement. Les ministres font donc campagne d'arrache-pied. Certains ont passé hier directement des coups de fil aux citoyens pour les appeler à voter Renaissance. Quant au premier d'entre eux, il a multiplié les meetings, d'autant que le Landerneau bruisse déjà. Les rumeurs de remaniement vont jusqu'à Édouard Philippe, qui était hier à la chapelle. Saint-Mémin, près d'Orléans. Reportage Virginie Riva.
Pas plus de 250 personnes dans cette petite salle des fêtes près d'Orléans, mais Édouard Philippe, souriant et détendu, réussit à dynamiser la réunion avec un objectif, mobiliser dans cette dernière ligne droite, quitte à donner des conseils très pratiques.
Cette campagne, pour vous tous, elle commence. À vous de téléphoner, à vous d'aller vérifier que vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis vont voter. On compte sur vous. On va regarder les résultats d'Orléans avec une attention particulière. Votez, faites voter Renaissance.
Le Premier ministre en est à son 8e déplacement en 3 semaines. Il prend plaisir à faire campagne, ça se voit. À la sortie, il n'hésite pas à enchaîner les selfies et à profiter du bain de foule. Alors, un éventuel changement de gouvernement en cas de défaite dimanche, ça, les sympathisants ne veulent pas en entendre parler.
Vous savez, les scores pour les européennes, c'est jamais des scores extraordinaires. Je pense pas que ce soit signifiant. Il faut le garder, puis c'est tout. Il mouille la chemise.
Édouard Philippe, dans cette campagne, il a joué son va-tout. Il a pris des risques, mais bon, je pense qu'il fallait. Il a eu le courage de prendre des risques. Il fait le boulot, il fait le job. Et puis bon, il parle avec ses tripes, il parle avec son cœur. Et ce qu'on veut aujourd'hui, on veut du simple, on veut du concret.
Édouard Philippe qui sera également ce soir au meeting de clôture à la Mutualité à Paris.
Virginie Riva pour Europe 1 et le président de la République s'impliquera à nouveau dans la campagne ce soir en répondant aux questions du youtubeur Hugo Travers. C'est à partir de 18h15. En cette fin de campagne, les sondages convergent et donnent tous la liste du Rassemblement National devant celle de La République En Marche, de peu, mais devant. Les élections européennes peuvent cependant réserver des surprises. Les Hollandais votaient hier et contre toute attente, les partis pro-européens et notamment les travaillistes sont sortis vainqueurs du scrutin. Ils ont déjoué les sondages qui annonçaient tous une percée des populistes. En Nouvelle-Calédonie, c'est un indépendantiste qui a été élu à la tête du Congrès. Le Congrès, c'est l'équivalent d'une assemblée territoriale. Roch Vamitan en devient donc le président. C'est une figure du mouvement indépendantiste kanak. C'est un poste crucial puisque l'accord de Nouméa permet la possible organisation de 2 autres référendums sur l'indépendance en 2020 et en 2022. Connaissez-vous cet acronyme RGPD ? Oui. Cela veut dire...
Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Cela veut dire Règlement général pour la protection des données. C'est une norme européenne qui oblige les entreprises à mieux informer les utilisateurs sur ce qui est fait de leurs informations personnelles recueillies en ligne. Mais un an après son entrée en vigueur, la loi est-elle bien connue des Français ? Reportage François Geffrier.
Est-ce que vous avez entendu parler du RGPD ?
Oui, ça me dit quelque chose, mais...
Non. Vous ?
Non.
Non. Non.
Règlement général sur la protection des données ?
Oui, oui. J'ai vu sur Facebook, je pense.
À brûle-pourpoint, ça ne me disait rien.
Dans ce parc parisien, les promeneurs n'ont pas toutes ces initiales en tête, alors qu'ils sont tous concernés. Perrine, qui vient de finir ses études de droit, s'y connaît un peu mieux.
Vous avez plus de droits, le droit de supprimer vos données, pouvoir les télécharger, les supprimer... On peut prendre toutes ces données et les donner à une autre entreprise.
C'est ce qu'on appelle la portabilité des données pour changer, par exemple, d'adresse email plus facilement. Le RGPD, ce sont aussi les sites internet qui nous demandent depuis un an si on est d'accord avec leurs conditions d'utilisation.
Ça m'arrive de cliquer sans les regarder exactement comment sont utilisées mes données.
J'essaye de lire, mais c'est rapide par moment.
Les options ne sont pas toujours faciles à trouver. On ne les trouve pas, puis on accepte.
Moi, je limite vraiment. Il faut savoir se protéger.
Vous essayez de décocher des cases ?
Décocher des cases, pas donner trop d'infos, pas accepter la localisation.
sanctions.
Peut-être que dans le futur, s'il y a des sanctions, oui, là, ça pourrait être intéressant.
Des amendes sont bien prévues, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Google a déjà été sanctionné en France à hauteur de 50 millions d'euros.
François Geffrier du service économie d'Europe 1. Le défi climatique est l'affaire de tous. Les États, bien sûr, mais aussi les citoyens et les entreprises. C'est le sens du World Impact Summit qui se tient à Bordeaux aujourd'hui et demain, avec en son cœur un lieu particulier où sont réunis de nombreux acteurs, très différents, mais ils ont tous un point commun, ils veulent innover pour sauver la planète. Reportage signé Stéphane Place.
Au cœur de ce World Impact Summit, ici, place des Quinconces, le village des solutions. Une centaine de start-up, ONG, associations qui sont là pour répondre aux questions que l'on se pose quand on veut, par exemple, repeindre son intérieur, mais en s'efforçant de respecter l'environnement. Eh bien, Marianne Rito de l'entreprise Circouleur peut vous aider.
Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer des peintures recyclées. Quand vous utilisez une peinture, vous avez toujours des COV qui sont émis. Les COV, ce sont les composés organiques volatiles qui ne sont pas très bons pour la santé. Nous, on a fait des tests, on est sur des taux de COV qui sont extrêmement bas parce qu'on récupère des pots qui ont déjà été ouverts. Donc les COV se sont déjà volatilisés.
Autre préoccupation très fréquente, le recyclage des déchets avec pourquoi pas l'installation d'un composteur. Si on a la chance d'avoir un jardin, c'est facile, mais si l'on habite un petit appartement, là, c'est Lucas D'Acosta de l'association Récup qui a une solution.
C'est un seau qui fait 16 litres, une trentaine de centimètres de haut. Le kit complet, donc ça comprend le seau, 2-3 outils qui vont avec, et donc du son de blé qui enrichit avec des micro-organismes. Et c'est ces micro-organismes-là qui vont faire fermenter les déchets. Et en plus de ça, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'insectes. On peut mettre de la viande, du poisson, des os.
Et ça coûte 70 euros par an. L'association vient en vélo électrique collecter le compost donné ensuite aux maraîchers. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et Europe 1 est partenaire de l'événement. Nous serons tout à l'heure en direct de Bordeaux, édition spéciale de La France qui bouge avec Raphaël Duchemin à partir de 12h30.
À suivre dans ce journal ce soir, c'est Multiplex sur Europe 1, dernière journée de Ligue 1 et encore beaucoup de suspense en bas de tableau. À tout de suite.
Bon réveil à tous. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, football et dernière journée de Ligue 1 ce soir.
Absolument, 38e et dernière, Paris sera champion, Lille et Lyon. Bien sûr, Lille et Lyon iront en Ligue des Champions la saison prochaine. Le suspense se concentre dans le bas du tableau. Bon, Guingamp est sûr de descendre en Ligue 2, mais qui accompagnera les Bretons? Quatre clubs sont à la lutte, Jean-François Pérez.
Les supporters qui ont passé la nuit la plus calme sont ceux de Monaco. Grâce à leur victoire sur Amiens le week-end dernier, les Monégasques risquent au pire une place de barragiste et encore, il faudrait un concours de circonstances très improbable pour les voir terminer 18e, même s'ils bouclent leur saison chez le voisin et rival niçois. En perdant sur le Rocher, en revanche, Amiens ne s'est pas rendu service. Mais les Picards gardent la maîtrise de leur destin. Un succès sur des Guingampais démobilisés leur assurerait un maintien dans l'élite. On aura donc un œil attentif au duel à distance que vont se livrer Caen et Dijon, de loin les plus en danger face à des clubs qui n'ont plus rien à craindre ni à espérer. Les Normands accueillent Bordeaux, l'une des grandes déceptions de la saison. Les Bourguignons reçoivent Toulouse. Si Caen l'emporte, Dijon sera relégué, quel que soit son résultat. Les Dijonnais d'Antoine Comboiré doivent donc gagner et croiser les doigts pour s'imaginer encore un destin en Ligue 1 cet été.
Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1. Nous sommes vendredi 24 mai. C'est une date importante pour la communauté gitane qui célèbre aujourd'hui Sainte-Sara au Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue. Traditionnel pèlerinage, procession sur la plage qui attire les foules, pas seulement les gens du voyage, mais aussi de nombreux touristes. La fête va durer tout le week-end. Oh. Et c'est Nathalie Chevance qui nous raconte tout cela.
600 caravanes, 15 000 visiteurs, des gitans pour la plupart, mais aussi des touristes comme Christine. Dans sa robe rouge, avec ses grandes boucles d'oreilles, elle dit avoir l'âme gitane.
J'aime le cadre, j'adore les gens du voyage. Je vibre avec ces gens-là, la musique, etc. C'est quelque chose de merveilleux. J'aime leur liberté surtout, et surtout la foi avec Sainte Sara.
Et pour toucher Sara, la Vierge Noire, il faut patienter dans la chaleur de la petite église des Saintes Maries. Les pèlerins se pressent, la ferveur est palpable.
C'est la sainte des gitans. Elle est tout pour nous.
On est né dans une caravane, on n'a pas eu de maison. Et depuis toujours, chaque année, on a l'habitude de venir avec nos parents, nos arrière-parents. C'est resté comme ça et on n'a pas changé notre croyance.
On peut accrocher ce qu'on veut sur elle, si on a un ruban, un collier. Pour nous, ça nous porte chanceux. C'est notre emblème, madame. C'est chaque année, c'est comme ça. Elle est magnifique.
Et à l'extérieur de l'église, la musique est partout dans le village, la fête, les traditions, insiste Payou, représentant des gitans du Sud.
C'est là où se font les baptêmes, c'est là où se font les demandes de mariage. On perpétue la tradition des vieux. Parce que pour nous, on continue à dire qu'un peuple qui n'a plus de culture n'existe plus. Toujours la musique, le partage.
Et cette année encore, la communauté gitane s'est déplacée de toute l'Europe. Au Sainte-Marie, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et mon très cher Mathieu, c'est la fin de ce journal. J'ajoute un autre élément à noter à votre agenda ce week-end. Ah oui. Une autre fête, c'est la fête des mères dimanche. Oui, oui.
Mais évidemment, mais vous savez que je l'ai déjà noté dans mon agenda. Je ne l'oublie jamais.
On peut oublier la Saint-Valentin.
Mais la fête des mères, en revanche, là, voilà. Ça ne pardonne pas. Exactement. Merci, c'était le journal de David Doucan, un journaliste que je qualifierais d'autosuffisant. En effet, là où beaucoup de ses collègues présentateurs ont besoin des reportages des autres journalistes pour expliquer l'actu, lui pourrait fort bien s'en passer, comme on l'a constaté avant-hier, au détour d'un sujet diffusé par erreur à la place donc de celui qui devait passer, et que David a admirablement résumé en 7 secondes, alors que le sujet en faisait 48.
Et veuillez excuser cette petite erreur. Vous avez eu là l'explication de la nouvelle proposition de Theresa May, le reportage dans lequel on apprenait que ce petit parti ne recueillait que 5% des intentions de vote, ceux qui veulent rester dans l'Union Européenne, alors que le Brexit Party sur le Change UK de Nigel Farage domine les sondages avec 34% d'intention de vote, parti qui défend donc exactement l'inverse, c'est-à-dire la sortie de l'Union Européenne.
Eh ben... Ouais. Bien rattrapé.
De toute façon, t'es très fort sur le Brexit à chaque fois.
Mais t'as bien expliqué. C'était même plus clair certainement que le son.
Bah oui, c'était beaucoup mieux que le reportage. On devrait faire toujours ça en gagnant un temps fou sur les journaux. Elle... Oui, Eva,
c'est mon dada.
Il faut dire que le Brexit, je pense que David Doucan pourrait écrire un livre sur le Brexit. Si jamais vous voyez un livre, Le Brexit pour les nuls, pour raconter, ça sera David Doucan qui l'aura fait, ça sera synthétique.
Carrément.
C'est vrai que c'est mon dada, comme on dit.
C'est votre it's dada, comme on dit là-bas. Elle est irremplaçable, elle en passe à la météo de Céline Dacosta.
Oui,
oui,
ah
oui,
oh,
encore du... mais je sais, encore
dites
du soleil, moi. Mais il y a un orage
dites
qui arrive,
moi.
Si je m'amuse.
Oui, orage dans le sud-ouest, hein, avec déjà ce matin des averses soutenues. Orage pour cet après-midi, qui seront parfois forts, donc attention, ils vont gagner ensuite l'Auvergne, remonter jusqu'en région centre, en région parisienne, en toute fin de journée. Là où le soleil va bien résister, c'est près des côtes de la Manche pour cet après-midi. Ce matin, on en aura encore un petit peu partout. Les températures sont en chute libre dans le sud-ouest, on va perdre jusqu'à 11 degrés par endroit. Ailleurs, ça va rester très doux, 20 à 25 degrés, encore 23 degrés attendus à Paris. La maximale sera de 26 pour Montélimar.
Merci bien Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre, les trois fantastiques. Politique, économie, médias, l'actu décryptée sans langue de bois chaque matin. Au programme aujourd'hui, Saint-Louis qui sucre les fraises et Emmanuel Macron qui joue son va-tout avec les Européennes.
Bon réveil à tous, il est 6h42. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
La campagne pour les élections européennes prendra officiellement fin ce soir à minuit. D'ici là, toutes les formations politiques vont jeter leur dernière force dans la bataille. Le président de la République répondra aux questions du youtubeur Hugo Travers à partir de 18h15. Les élections européennes peuvent réserver des surprises. Les Hollandais votaient hier et contre toute attente, les partis pro-européens et notamment les travaillistes sont sortis vainqueurs du scrutin. Ils ont déjoué les sondages qui annonçaient tous une percée des populistes qui ne s'est donc pas produite. Enfin, le foot et dernière journée de Ligue 1 ce soir. 10 matchs à vivre en multiplex sur Europe 1. Rendez-vous dès 20h. L'enjeu, c'est évidemment la lutte pour le maintien en première division. Ça va se jouer entre Amiens, Dijon, Caen et aussi, dans une moindre mesure, Monaco.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Au cinéma, les 4 fantastiques sont 4. Chez nous, ils sont 3, sauf si Céline Dacosta passe le test pour intégrer la bande des éditorialistes. Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie, Eva Roch pour les médias. Coopteront-ils Céline Dacosta dans ce club très fermé? Attention, Céline, je vous donne le thème politique du jour. Emmanuel Macron qui joue son va-tout lors du scrutin de dimanche.
Bah, il se démonte pas. Il se démonte pas.
Oui, bien.
Pourquoi il en quitte?
Eh bien non, nous restons à 3 fantastiques, pas plus. Mickaël Darmon, on commence donc par la politique et nous y sommes. Dernier jour d'une campagne électorale qui a reposé sur les épaules du président de la République. Une prise de risque pour la relance du quinquennat après le grand débat.
Et une campagne qui confirme bien un aspect de la personnalité d'Emmanuel Macron. Décidément, il aime la bagarre face à ses interlocuteurs ces jours-ci. Il se montre impatient et assume d'avoir mis la majorité sous pression. Assume également, petit comité, d'avoir piloté la campagne. Mais voilà, il n'est pas sur l'estrade et il est à sa place de président. Il doit donc regarder les autres faire, d'où sa volonté d'en découdre dès que l'occasion lui en était offerte. En clair, provoquer en duel singulier Marine Le Pen. Étrange tout de même hein, pour des élections européennes qui en fait n'ont pas d'incidence sur l'élection présidentielle. Mais la pression est forte pour la première élection nationale depuis 2017. Emmanuel Macron a voulu faire de ce scrutin la redite de l'élection présidentielle et joue son va-tout tout en prévenant donc les ministres du gouvernement. En cas de mauvais résultat, la dynamique de l'acte 2 sera grippée, profondément européen. Il est persuadé que l'Europe peut se disloquer, donc il dramatise les enjeux pour provoquer le vote utile alors que la mobilisation s'annonce faible. Et il est vrai que tous les responsables de la majorité ont du mal maintenant à cacher leur crainte d'un mauvais score dimanche. tout en espérant quand même secrètement un sursaut des indécis.
Quels changements sont à prévoir au niveau du gouvernement ?
Alors ce qui est frappant, c'est quand même de voir à quel point l'équipe actuelle de Matignon semble renforcée dans sa mission de la mise en route de la suite du quinquennat. En conséquence, si Emmanuel Macron n'a pas l'intention de changer de Premier ministre, c'est le Premier ministre qui change sa méthode. L'assouplissement de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les petites routes se veut la vitrine un peu de cette évolution. Donc Philippe, le crooner du centralisme administratif, va maintenant devenir le chantre de la décentralisation. C'est d'ailleurs le sens de ses déclarations hier sur CNews. Donc sauf coup de théâtre, il va rester à la tête d'un gouvernement ajusté, selon le terme à l'Élysée. En général, on dit ça à la veille des remaniements qui ensuite prennent plusieurs jours pour aboutir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Jean-Yves Le Drian, lui, se dit très heureux au Quai d'Orsay. Il rentre d'Afrique et prépare les prochains voyages présidentiels donc en Angola, en Afrique du Sud. Tous ces futurs changements devraient déboucher sur un discours de politique générale du Premier ministre. De son côté, Emmanuel Macron a déjà enjambé l'élection et en prochain combat, il veut contenir les ambitions de l'Allemagne sur la Commission européenne. C'est le point commun d'ailleurs entre Philippe et Macron. Ce sont tous les deux des boxeurs, mais pas sur le même ring.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cet éclairage politique. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Deux nouvelles fermetures d'usines. Deux sucreries Saint-Louis, dans le nord de la France, vont fermer et son propriétaire refuse toute reprise du site.
Voilà, alors les deux usines en question, ce sont deux usines donc, de raffinage à Cagny, c'est dans le Calvados, et à Ebbeville, dans la Somme. Donc 130 emplois menacés. Mais surtout, derrière ces deux usines de raffinage, il y a des milliers d'agriculteurs, des producteurs de betteraves qui apportent leurs betteraves dans ces usines de raffinage pour ensuite être transformées en sucre. Et donc, ces milliers d'agriculteurs sont évidemment très inquiets, au point que ils ont formulé une offre de reprise. Ils disent, si vous fermez cette sucrerie, nous vous proposons de la racheter. Et le propriétaire en Allemagne, qui s'appelle Zucker, voilà, a dit non. Nein, et il joue franc jeu. Il dit non, si nous arrêtons la production de sucre, ça n'est pas pour la proposer à d'autres, c'est bien pour retirer des capacités du marché. Donc vous voyez, les Allemands disent non, nous voulons fermer, nous ne voulons absolument pas que d'autres puissent reprendre ces deux sucreries.
Mais la loi n'oblige pas les grands groupes à chercher un repreneur en cas de fermeture d'un site ?
C'est la loi Florange, donc initiée sous François Hollande. Alors là, ils sont habiles techniquement, les Allemands, que font-ils ? Techniquement, ils ne ferment pas ces deux usines de production, ils vont les transformer en zone de stockage. Donc vous voyez, alors il n'y aura plus que 5 ou 6 gugus qui vont garder des betteraves. Donc si vous voulez, techniquement, on va voir quand même si le gouvernement ne se mêle pas de cette affaire. Alors maintenant, sur le fond, pourquoi est-ce que ces deux usines, pourquoi est-ce que ces deux sucreries ferment ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a eu un changement. Jusqu'en 2017, il y avait des quotas de production pour le sucre et il y avait un prix d'intervention garanti. 2017, libéralisation du secteur, plus de quotas de production, chacun est libre de produire autant de betteraves qu'il ne veut, mais plus de prix garanti. Et donc, on est calé sur les cours mondiaux. Que s'est-il passé ? Les cours mondiaux sont évidemment plus bas que les prix qui étaient garantis aux betteraviers français. Et donc, pour compenser, les producteurs de betteraves ont dit « si on les vend moins cher, on va en fabriquer plus ». Et donc, résultat, partout en Europe, la production de betteraves a augmenté de 25%. Et donc, on se retrouve aujourd'hui en totale surproduction, au point qu'en France, on fabrique deux fois plus de sucre qu'on en consomme. Et donc, c'est ce que disent les Allemands. Ils disent, attendez, il y a trop de sucreries en Europe. Et d'ailleurs, il y a également l'autre qui s'appelle Crystal Union qui va fermer également deux sucreries. Donc, vous voyez, on n'a pas fermé des sucreries en France. Il y en a 25 en tout. Donc là, il s'agit de Bourdon dans le Puy-de-Dôme et de Toury dans l'Eure-et-Loire. Mais c'est ça qui est compliqué dans le domaine alimentaire. C'est comme il s'agit de quelque chose de stratégique et de souveraineté, on a du mal à accepter les règles de la mondialisation parce que personne ne veut dépendre de l'extérieur pour son alimentation. Et donc, chacun pousse sa production locale. Et donc, de temps en temps, on a des crises de surproduction. On l'a vu dans le lait, on l'a vu dans la viande de porc et on le voit aujourd'hui dans le sucre.
Lui, il soutient la filière. Il met toujours deux sucres dans son café. Mickaël Darmon.
Oui, l'essayiste. Ah ben voilà. L'essayiste Yuval Harari explique que le sucre tue plus que le terrorisme.
Et c'est vrai. Oui, c'est parce qu'en plus, on arrive à une période où les gens mangent de moins en moins de sucre.
Voilà. Donc, et les récoltes sont excellentes en Inde et au Brésil. Et donc, effectivement, il faudrait sucrer davantage les fraises. Sans jeu de mots.
Très belle conclusion, Axel de Tarlet. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Je vous en parle depuis ce matin. Double jeu, c'est la nouvelle série policière Boulevard français sur France 2 à 21h. L'héroïne principale s'appelle Déa, une très belle femme, divorcée, mère d'un garçon d'une dizaine d'années. Elle est flic et la hiérarchie, elle s'en fout un peu. Elle n'hésite pas à porter un sweat sur lequel est inscrit « Fuck the police ». Mais Déa, elle est légèrement contrariée par l'arrivée d'un nouveau coéquipier, Mathieu Bellecour. Alors jusque-là, rien de neuf hein, sous le soleil quand je vous ai dit le pitch. Mais j'ai oublié de vous dire un détail très important, c'est que Déa a un ami imaginaire. Oui, comme quand on est enfant, vous savez. Sauf que dans son cas, ben, son ami imaginaire, Jimmy, bel homme qui porte un smoking, n'a jamais quitté son inconscient depuis qu'elle est enfant. Il est toujours là. Et la présence du nouveau coéquipier, il n'aime pas trop ça.
Tu crois qu'il s'habille toujours comme ça, le nouveau, tout bien repassé ?
Non, c'est toi qui dis ça ?
Tu vas pas comparer mon smoking avec ses costards en polyester, non ?
Ok, il t'énerve. Ah ouais, on a bien compris, là.
Non, il m'énerve pas. Il me fatigue, il m'ennuie, il est là, il est comme ça. En plus, il se la raconte.
Ben oui, ils se parlent, Déa et Jimmy, c'est le duo inséparable, ils enquêtent ensemble, forcément, ils vivent ensemble, forcément aussi. Alors dans l'entourage de Déa, certains ont déjà remarqué qu'elle parlait seule parfois, mais en fait non, elle parle pas seule, elle parle à Jimmy, suivez-moi, hein, voilà. Un homme, un seul, est au courant de tout ce délire, c'est le psy de Déa.
Vous pensez que ce sera plus compliqué de travailler avec un partenaire plus réel ?
Ah mais non, mais c'est Jimmy, hein, mon partenaire. Moi, j'ai pas envie de trop d'interférences, hein, ça marche bien comme ça.
Qu'est-ce qu'il en pense de Mathieu ? Jimmy ?
Ben, il le déteste, hein. Il est inquiet, tendu et il se... Excusez-moi, mais ça me fait toujours rire quand vous parlez de Jimmy comme si...
Comme s'il existait. C'est amusant que ce soit vous qui trouvez ça bizarre.
Alors c'est une comédie policière, c'était le pari de double jeu et je dois dire que c'est très réussi. Alors même si les enquêtes en tant que telles, elles auraient mérité un peu plus d'écriture et d'originalité, on va laisser tomber là-dessus, mais au fond on s'en moque un peu parce que tout repose sur le duo qui est incarné par Carole Weyers, comédienne belge que je ne connaissais pas, qui est absolument mais remarquable, c'est une révélation donc dans le rôle principal, et puis François-Vincent Telly, sans oublier Ambroise Michel dans le rôle de Mathieu. C'est drôle, c'est rythmé, c'est joyeux, c'est très léger évidemment, l'histoire de l'ami imaginaire elle est parfaitement intégrée dans l'histoire, à la fois dans les dialogues et dans la réalisation. Et puis nous, ça nous renvoie forcément un peu à notre enfance. Je ne sais pas si vous aviez des amis imaginaires quand vous étiez enfant. J'ai retrouvé un peu à l'esprit d'une autre série que j'avais adorée qui s'appelait Clara Scheller, dans laquelle jouait déjà François-Vincent Telly. Voilà, la boucle est bouclée, et pas la boucle est bouquée, comme j'ai l'habitude de dire. C'est sur France 2 à 21h.
Vous avez un ami imaginaire, vous, Eva ?
Je ne me souviens pas, parce qu'apparemment, les amis imaginaires, c'est avant 5 ans, et vous savez que les souvenirs avant 5 ans, on a tendance à les oublier.
Ouais. Bon, vous, c'était hier.
Mais je sais que ma nièce, par exemple, a un ami imaginaire, et c'est très drôle à l'avoir à réagir avec. Voilà. Vous n'aviez pas un ami imaginaire ?
Pas du tout.
J'étais fils unique
et content de l'être.
Ouais. Mais ça n'a rien à voir.
Tous les jouets pour moi. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour lundi aux alentours de 7h moins le quart.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, l'heure de céder la place à Nikos Aliagas-Arif, ce qui signifie aussi que c'est l'heure pour Nikos de faire face au débrief de sa matinale d'hier. Chaque matin, c'est pour lui un délicieux moment où je pointe le doigt avec malice ses bévues de la veille. C'est simple, il ne tarit pas d'éloges sur moi, il m'adore.
C'est un connard.
Oui, non mais en grec, ça n'a pas la même signification. Le meilleur est à venir, le débrief de la matinale de Nikos Aliagas, assure.
Il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Et voilà, nous sommes sur le quai de la gare, Debout les copains va partir, mais pas question pour vous de rester à quai, dans quelques instants vous allez embarquer à bord du TGV de l'info, la matinale de Nikos Aliagas. Mais avant de partir, vous êtes d'accord ? Faut vérifier que le train fonctionne. Nous vérifions. Voici le débrief de la matinale d'hier, une matinale qui avait commencé de la plus belle des manières, en clouant le bec à ceux qui disent qu'on est des ringards, et en portant haut la nouvelle ligne éditoriale d'Europe 1, la radio par des jeunes, pour des jeunes.
Lolo est dans la place. Tout baigne.
Wesh Macaille, Lolo Brocaille dans la sepla. Oh, okay. Sa théomée va peser en tété. Mais attention, Bélec, draguer les jeunes, oui, mais tout en conservant notre cœur de cible, Nico. C'est notre cœur de cible, c'est qui ? Ben, c'est les amateurs de questions pour un champion. D'où l'idée de génie que vous avez eue hier, fidéliser nos auditeurs avec des petits quiz passionnants.
C'est la Saint-Didier aujourd'hui, si vous connaissez les Didier.
Didier François.
Didier François.
Ah ben oui, t'as raison.
Kissou, Didier.
Les jeunes, les moins jeunes, là c'est parti, tout le monde va kiffer Europe 1, tout le monde s'y retrouve, et vous me direz, et les libertins échangistes de plus de 45 ans vivant en zone périurbaine. Eh bien eux aussi, vous y avez pensé, avec la chronique Sexo-Innovation d'Anis Mbida, vous pensez décidément à tout, rien n'est laissé au hasard, c'est bien fichu votre truc.
Et toujours, on travaille par exemple sur un système qui va accélérer un grand coup, dès qu'ils sentent que quelqu'un va vous rentrer dedans par derrière.
Ah, on l'embrasse.
On l'embrasse. Inutile, bah, juste les sentiers à votre inutile de recontextualiser les initiés. Ont compris de quoi il s'agissait. Oui, Europe 1 sans canaille. Toujours parasasie en matière de double sens. Vous en voulez plus? Découvrez les lapsus coquins du père Foiraliagas. C'était mercredi au détour d'un sujet sur les prisons.
Ce matin, on avait un reportage où on précisait que certains prisonniers, les prisonniers, peuvent voter, ceux qui ont encore leurs doigts, leurs droits.
Oui, beau sujet. Beau sujet qui mériterait d'ailleurs une émission télé, le doigt de savoir. Enfin, ces petites bévues ne sont pas de grande importance, car l'essentiel, Nikos, là, en effet, il siffle bien. Vous avez aimé l'album Micheline Dax siffle 50 ans de chansons françaises.
Bof.
Mais non, pas bof, c'est bon lancement. Vous avez aimé Micheline Dax, vous allez adorer Nikos Aliagas siffle. Bon, c'est pas quoi, mais il siffle.
Tu siffles très bien, je suis sûre.
Oh, c'est trop tôt.
Tu vois, regarde, ça lui dit.
Rien. Mais non, mais enfin.
C'est notre petit oiseau grec.
Le petit oiseau grec, il n'a pas encore déployé ses ailes.
Et les points autour de cette table, et vous n'avez aussi pas honte. De l'autre côté du poste, elles sont nombreuses, Nico, à savoir à ce que ce petit oiseau déploie ses ailes.
Ma femme entend.
C'est vrai, je l'embrasse au passage.
Mais vous n'avez pas honte. Comment voulez-vous que je rentre chez moi après ça?
En sifflotant. En sifflotant gaiement.
Ça passerait tout seul.
Merci Mathieu Noël.
Merci à vous.
Les barreaux qui vous fait rire.
Il me fatigue aussi.
Ça, c'est le cri du cœur.
Merci les enfants. Merci. Reposez-vous bien. Passez un excellent week-end.
Merci. Bon week-end.
Merci.